pas forcément des questions, hein. Des intervenants sont
des interventions, oui, questions, interventions.
Si vous avez des réflexions, des projets à partager, enfin, c'est, ça ne prend pas forcément la forme de questions, c'est vraiment ouvert à tout.
Moi, je vais commencer, s'il vous plaît. Je vais juste lancer. C'est quelque chose qui vient souvent, et justement, je trouve ta phrase de clôture, elle joue vachement là-dessus. En fait, des fois, on ne se rend pas compte qu'on met des mots, genre l'anarchisme, l'écologie politique, Extinction Rebellion, une coopérative alimentaire. Et en fait, moi, plus je lis, plus je regarde tout ce qui se passe autour de moi, plus je fais partie de tous ces différents trucs, plus je me rends compte qu'en fait, du coup, il y a quand même une racine qui est vraiment très commune. Et que peut-être, en fait, déjà, c'est super qu'il y ait toutes ces choses qui se passent. Et peut-être qu'en fait, c'est aussi en partie une sorte d'anarchisme. Parce qu'il y a toutes ces différentes choses qui existent, qui amènent une sorte de diversité et qui amènent un mouvement, et qu'on a besoin de toutes ces choses et de tous ces mouvements, et qu'on ne peut pas tout faire tout le temps. Et du coup, c'est trop bien qu'il y ait, par exemple, des personnes qui réalisent des ZAD et d'autres qui réalisent des coopératives alimentaires et tout ça. Mais que, enfin, voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Voilà. Et, ah oui. Est-ce que vraiment, à l'époque industrielle, c'est une question très naïve, hein. Au début, est-ce que vraiment les gens qui ont mis tout ça en place étaient vraiment au courant de toutes les limites de la planète et tout, ou juste ils n'ont pas réfléchi? Parce que des fois je me demande si c'est vraiment un truc conscient, et je pense que ça a commencé par un truc tout con, de l'erreur humaine, trop tard c'est de la merde et qu'ils n'arrivent pas à faire demi-tour. C'est peut-être ma vision qui le voit comme ça.
Je sais pas ce que vous en pensez, tous et toutes.
Oui. Ouais, alors sur ce que vient de dire, je pense pas que c'est une erreur humaine. Il faut bien comprendre que le capitalisme, à un moment, il a les moyens de prospérer. Il s'en fout complètement. Tout le monde pense que les ressources sont inépuisables, qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais bon, il devait se poser des questions quand même, quand on ne pouvait plus respirer dans les mines, tout ça, les maladies, toutes ces choses-là. Je pense que les grandes questions étaient amenées, mais ça, bon, je ne peux pas trop y répondre. Je n'étais pas à cette époque-là, quoi. Mais il ne semble pas que ce soit qu'il se soit laissé embarquer dans un truc. C'est pas une erreur, quoi. Enfin, le but d'exploiter la nature pour faire des profits et d'exploiter les gens pour faire fabriquer les choses, c'est une véritable volonté, quoi. Voilà. Et puis je voudrais, sur ce qu'il a dit tout à l'heure, il parle beaucoup de croissance et de décroissance. Je pense que l'idée de croissance et décroissance, c'est une idée purement économique dans un système, quoi. Aujourd'hui, on parle de croissance, on peut parler de croissance verte, de croissance ce qu'on veut. On peut parler aussi de décroissance, c'est-à-dire qu'on retire. On s'inscrit dans un système politique. Dans un système anarchiste, à mon avis, on ne va pas parler de croissance, on parle de bien-être. Et ce n'est pas une histoire de croissance, c'est un bien-être qui est choisi, qui est décidé par l'ensemble des gens, et qui doit être rationnel ou non. D'ailleurs, une société anarchiste ne dit pas ce que penseront les gens, mais elle leur laissera la liberté de communiquer et de pouvoir agir. Donc l'idée de la croissance, si aujourd'hui on se bat pour la décroissance, on ne s'émancipe pas d'un système économique, à mon avis. Il faut faire très attention à ça et trouver d'autres peut-être moyens d'expression là-dessus. Et puis, merde, il y avait un autre truc. Ouais, l'internationalisme. L'internationalisme, c'est pas... forcément, en tant qu'anarchiste, on est internationaliste, dans le sens où on nie l'idée des frontières, l'idée des nations, des patries. Il y a des humains sur la planète avec des cultures différentes, et chaque individu est déjà différent d'un autre, hein. Et c'est ce respect des individus et cette solidarité, cette fraternité qui est nécessaire au bon fonctionnement de tous. Et donc le nationalisme n'a pas de sens, on est obligatoirement internationaliste. Il ne faut pas le mettre dans le système marxiste où on veut faire une révolution internationale, chapeauter tout ça en disant, on dit tiens, la vérité, il faut que tout le monde adhère à notre vérité. entre l'internationalisme anarchiste, ça veut dire on est tous sur la même planète, on ne connaît pas les frontières, on ne connaît rien de tout ça, et on est solidaire à travers le monde. Et aujourd'hui, si on, je pense qu'on voit déjà des assemblées de citoyens, de gens, d'individus partout autour du monde qui se réunissent pour discuter des grands problèmes écologiques ou des grands problèmes d'environnement qui sont capables de rencontrer. Enfin, qui sont capables, qui subissent. Tout le monde est capable.
Moi, j'avais un truc à relier à la question que tu as posée sur si vraiment à l'époque il s'est rendu vraiment compte que la Terre a des limites. Et tout, il y a une petite histoire qui m'est venue à l'esprit, je ne sais pas si vous avez trouvé rigolo, mais à l'époque, par exemple, quand ils ont trouvé des seaux des mammouths, bah, ils ne se rendaient pas compte, ils ne pouvaient pas comprendre l'idée que c'était une espèce qui n'existait plus. Ils se disaient, bah, ça va être un éléphant avec des dents énormes de hommes, de personnes, d'êtres humains, mais pas que c'était une espèce qui était disparue. Donc je crois que ça fait partie d'un changement un peu du créationnisme et de l'idée que c'était de l'anthropocentrisme, où on est vraiment dans une scène qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui nous porte tout le temps de matériel assez à question pour ce au présent ici. Voilà.
Ouais, donc je voulais juste revenir sur la vocation internationaliste, si j'ai compris, je ne sais pas super le sujet de l'anarchisme par opposition à l'écologie politique. J'ai en fait. Du coup, je comprends que l'anarchisme perd la vocation à effacer les frontières. Enfin, pour moi, l'anarchisme, tel que je comprends, est lié à la question des rapports humains collectifs, donc décentralisés. Chacun s'auto-organise avec les milieux à proximité. Mais j'ai du mal à imaginer comment, au niveau. Comment une portée internationale, comment ça peut, le discours et l'organisation. En fait, pour moi, il m'a l'air d'y avoir une espèce d'aspect irréconciliable entre la volonté justement d'organiser dans l'autogestion des personnes à proximité et la vocation d'étendre un mouvement au niveau international. En fait, concrètement, comment empêcher, si le monde entier devait devenir et adhérer à l'anarchisme et étendre ce modèle partout, comment empêcher en fait. Est-ce qu'en fait, on commence à l'idée d'empêcher qu'à tout prix, que quelque part dans le monde, des groupes décident, qu'un petit groupe décide de ne pas suivre ce modèle et puis par la force des choses s'organise et renverse graduellement ceux qui sont autour. Par la force, en fait.
Puisque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce que vient de.
Moi, je me dis que justement, s'il y a une solidarité internationale, les gens viendront en solidarité contre ce groupe-là. Après, c'est possible aussi d'avoir une organisation anarchiste au sein d'un truc qui n'est pas anarchiste aussi. Au Chiapas, c'est un peu différent, mais ils sont dans une organisation. Qui peut être un peu libertaire, enfin c'est pas exactement anarchiste, mais ils sont entourés de gens qui sont pas forcément dans leur système, mais ils arrivent à s'organiser aussi.
En fait, est-ce qu'il y a une je suis intéressé par une conversation de la réelle politique de l'anarchie. La réelle politique, elle se base sur les États qui vont se confronter les uns aux autres. Dans les années de l'anarchisme, la vision anarchiste, il n'y a plus d'État, mais la logique sous-jacente est difficilement balayée, donc effectivement, comme tu dis, on peut imaginer que ça se trouve, mais est-ce que ça a été déjà peut-être solliciter certaines études et puis en retour de
Je crois que ça renvoie un peu à la première présentation qui avait été faite sur le fédéralisme à la limite. C'est ça, il y a quand même eu ce système d'organisation en échelle, enfin par niveau. Et c'est la solidarité vraiment qui est internationale. Après, l'organisation est surtout locale. Et plus tu montes dans un niveau, moins il y a de pouvoir de décision, mais tu te coordonnes, en fait, quelque part. Et je pense que c'est ça, un peu, en gros résumé, on va dire, la différenciation apportée.
Ce que je me dis aussi, sans être grand connaisseur non plus de toute la pensée anarchiste, c'est que ce qui va être international, c'est surtout la transmission d'un modèle, et qu'il puisse se faire des petits partout, qui sont des petits autonomes, et qu'il puisse justement se consulter, se fédérer, enfin se confédérer, etc., pour aller dans un sens un peu commun qui est de véhiculer ces valeurs fondamentales de l'anarchisme sur l'autodétermination, l'autonomie, etc.
Ouais, là-dessus, je pense que déjà l'anarchie ne s'impose pas. Hein, c'est quelque chose de librement consenti. Notre combat, il est difficile à cause de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se battre sur... Le combat est très difficile, mais il n'est pas impossible. L'idée de l'anarchie, c'est quand même l'individu, le groupe d'individus qui fait la communauté, et après, les communes et la fédération des communes libres qui fait réclamer par la commune et tout. Et toutes ces choses-là n'empêchent pas les échanges. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en train de dire l'internationalisme, comment on va communiquer par exemple avec un japonais anarchiste? On peut communiquer certainement avec. Les échanges, on pourra en avoir, on peut en avoir certainement si on en a envie. Mais c'est pas ça qu'on va chercher aujourd'hui, à recréer ces grands circuits du capitalisme. On va plutôt être dans des échanges... Des échanges entre structures fédérées. Il faut créer un véritable fédéralisme. Et c'est évidemment, il y aura peut-être des gens qui voudront quelque part prendre le pouvoir, parce qu'ils reviendront, ils seront réveillés en disant tiens, il existe un monde comme ça, on va bien l'expérimenter, ils militeront pour avoir le pouvoir. Mais l'idée de l'anarchisme, c'est de bien faire comprendre que tout pouvoir est maudit, comme disait Louis Michel, hein, et que les gens, une fois qu'ils ont compris ça, qui peut prendre le pouvoir si personne n'obéit? Il y a une phrase qui dit, il n'y a pas que des tyrans, il y a aussi des esclaves, l'homme n'obéit, personne ne commande. C'est un petit peu ça qu'il faut amener. Bon, il faut avoir confiance aux gens. L'anarchisme ne propose pas un modèle de société, elle propose une structure qui permet aux gens de développer leur liberté. Et leur liberté leur appartiendra à eux, elle n'appartient pas à l'anarchie. L'anarchie, c'est la liberté des gens, quoi.
Oui, il y a quelqu'un ici.
Oui, bon, là, après, du coup, je me sens un peu... Mais, enfin, ce que je voulais dire, c'est que de ce que j'avais compris aussi, c'est que, ben, là, tout de suite, probablement, mais je crois que c'était toi qui l'avais dit, je ne m'en rappelle plus trop, mais probablement, c'est aussi ça, l'anarchisme, en fait, va y avoir des personnes qui ne vont pas fonctionner exactement comme on s'imagine que nous, on aimerait fonctionner, parce que ça se crée par groupe d'affinités. Et parce que c'est plus petit, justement, et qu'en fait, ben, c'est aussi OK, dans une certaine mesure, justement, que l'autre groupe, d'accepter que l'autre groupe fonctionne différemment. Et je crois que tu prenais l'exemple, justement, des personnes qui, là, vivent sur la rive droite, et ben, peut-être que, voilà, elles vont se faire un truc dans leur comité. Enfin, je sais pas si on imagine. Et ben, elles vont se faire un truc qui ne vont pas forcément correspondre à ce que sont en train de faire de personnes sur la rive gauche. Voilà. Je sais pas si c'est... Voilà.
Moi, ce que j'ai l'impression finalement, c'est que l'anarchie, c'est un état d'esprit presque. Finalement, vous avez parlé d'une manière de s'organiser, mais j'ai l'impression que c'est une manière d'accepter autant de différentes organisations et structures. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer un monde entier anarchiste, mais avec des organisations quasiment totalement similaires à celles qu'on a actuellement, parce qu'elles sont libres et consenties par les personnes qui vont occuper. De ce que je comprends.
Ça, ça ouvre vraiment la porte de... Je trouve de savoir jusqu'où est-ce qu'on est d'accord avec le fonctionnement des autres. Je pense que si tout le monde est libre de fonctionner comme il veut, il reste que un des premiers points, un des points centraux de l'anarchisme, c'est de ne pas être dans des structures de pouvoir. Mais du coup, il y a aussi, d'une certaine manière, de pouvoir... les libertés sont à tout le monde, sinon c'est des privilèges. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a aussi une limite de ce que le courant anarchiste, du coup, vraiment le modèle de pensée, pourrait accepter. C'est si une communauté est en train de détruire le but, le commun, à ce moment-là, est-ce qu'on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on agit
ou est-ce qu'on les laisse parce que c'est leur liberté de détruire le socle de tout le monde. Je pense que là, on rentre dans quelque chose où finalement l'anarchisme peut aussi être le berceau de lutte. Enfin, c'est une forme de lutte, comme je le vois. Et c'est là aussi où c'est plus que juste un état d'esprit sans action, mais ça peut se corréler avec des actions pour lesquelles on n'est pas d'accord. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que ça s'est fait dans l'histoire de l'anarchisme. Il y a des actions directes, des actions violentes, enfin, jugées violentes par le pouvoir en place, etc. Et dont le but justement de déjouer les systèmes de domination. C'est comme ça que je l'entends.
Je vais juste essayer de recentrer un peu le débat par rapport à la question en lien avec l'écologie. Je pense que une des choses qu'on peut dire, on a parlé un peu des correspondances, et je pense qu'il y a surtout des questions de focus en fait, qui sont différentes mais qui sont assez complémentaires. L'anarchie, de manière générale, c'est beaucoup poser la question politique, la question sociale. Les écologistes ont été beaucoup plus présents sur les questions plus économiques, la production et les technologies, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les deux pensées sont assez complémentaires par rapport à ça. C'est là où c'est intéressant, c'est que souvent les apports des uns peuvent remettre en question l'autre et lui permettre de progresser dans sa pensée. Et je pense que les anarchistes, déjà peut-être avant le développement de la pensée écologiste, mais en particulier avec ça, s'est beaucoup remis en question sur les questions du productivisme, de la technologie et ce genre de choses, par l'apport vraiment des écologistes radicaux. Et à l'inverse, les écologistes radicaux, donc, ont été un peu poussés sur la question politique à se dire « Oui, mais c'est pas qu'une question de production, c'est aussi une question politique. C'est aussi la question de la démocratie directe, d'essayer de voir comment reprendre ça en main, etc. » Et la convergence, elle est vraiment intéressante à ce niveau-là. C'est quelque chose de... Il n'y a pas eu tant de pensées qu'on réussit comme ça à s'auto-alimenter, on va dire, ou en tout cas de faire progresser. Mais il y a toujours des différences à montrer, mais c'est vrai que sur le fond, c'est assez... Ça progresse vers le même but, je pense. Ça demandera encore quelques années pour vraiment bien communiquer, mais ça, je pense qu'il y a des choses fluctuantes. Et surtout, là, de voir l'écologie comme un apport anticapitaliste. Ce qui n'était pas le... j'ai ma voix qui me lâche, quoi. Ce qui n'était pas le cas au départ. Longtemps, les anarchistes n'ont pas vraiment cru à l'écologie parce qu'ils ont vu quelque chose de petit bourgeois, un peu d'alimentation, de, comme on l'a dit, conservation de la nature et des choses comme ça, un peu de beaux paysages. Et tout en coup, notamment par Bookchin, mais par d'autres aussi, on a vu le potentiel anticapitaliste et qui remettait en question les fondements de la société.
Ah, moi ? Ouais. Ben moi, je voudrais rebondir justement sur le fait que l'écologie était vue comme quelque chose de petit bourgeois. Enfin, pour moi, c'est aussi une question, à mon avis, qui s'est posée parce que l'écologie, elle touche à cette question justement des communs. Et du coup, l'écologie touche aussi à cette idée d'appropriation des communs et dans un mouvement qui est à la base très... Enfin, un mouvement de travailleuses. L'anarchisme, c'est donc des gens qui travaillent beaucoup dans ces environnements, avec les communs, peut-être dans l'agriculture, dans la construction, enfin dans les usines, etc. Donc c'est des gens dont les moyens de production exploitent en soi ce que l'écologie était censée protéger. Donc pour moi, c'est aussi une question qui se pose, où au départ de ces deux mouvements, peut-être qu'il y avait une non-correspondance, en fait... au niveau de qu'est-ce qui constitue le commun et à quel point l'humain a la possibilité et ou le droit de l'exploiter pour ses propres fins ou pas. Enfin, c'est pas forcément très clair, mais... Voilà.
Moi, j'aurais juste une question pour les deux intervenants. Vous avez dit que donc, vous êtes... Vous avez commencé cette réflexion sur la décroissance et jusqu'à maintenant, sans avoir eu de contact avec, ou sans avoir été vraiment influencé directement par la pensée anarchiste, bon, pour moi c'est pas un problème parce que anarchiste ça reste une étiquette assez vague finalement, donc je voulais savoir au niveau des idées, plus que des étiquettes, qu'est-ce qui, dans quelle perspective, dans quel système politique vous ancrez votre projet constructif de décroissance finalement, dont on n'a pas beaucoup parlé. Comment vous voyez la transformation des rapports politiques ou économiques même pour arriver à une société vraiment écologique que vous proposez?
Pour ma café. Il y a des assez grosses différences, j'ai l'impression, hein, dans le mouvement décroissant avec des gens qui participent au jeu. Il y a toujours une critique, hein, envers la démocratie représentative. Il y a énormément de doutes, et puis la plupart, je dirais, des objecteurs de croissance refusent de participer au jeu politique institutionnel, avec une critique derrière qui est, je dirais, moins profonde que la critique qu'on fait à l'anarchie, mais qui est quand même relativement conséquente. Il y a quelques contre-exemples assez intéressants. Bah, actuellement, ce qui se passe à Vevey, où on a, voilà, le mouvement décroissance alternative, qui est, entre autres, dont fait partie un des cofondateurs du journal, qui est devenu le premier parti de la cinquième ville du canton. Donc il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça, parce qu'ils disposent d'une certaine marge de pouvoir que des collectifs ou des partis d'extrême gauche ont probablement très rarement atteint. Donc ils sont attendus au tournant des deux côtés, je dirais, autant par celles et ceux qui pensent que c'est pas de l'intérieur des institutions qu'on va y arriver, que de la part des partis traditionnels qui attendent aussi qu'ils se cassent la gueule. Donc je pense que ce sera assez intéressant de suivre dans ces 4 prochaines années ce qui va se passer à Vevey. Après, ça dépend des personnes. Moi, je me rends compte, j'ai peu de background anarchiste, mais j'ai l'impression que la manière que j'imagine, c'est une manière, en fait, qui est très anarchiste. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si certains ont lu des bouquins fétiches que j'ai, c'est Bolo Bolo, qui est un bouquin suisse, hein, d'un auteur suisse alémanique il y a une bonne trentaine d'années. Mais c'est effectivement d'imaginer des communes, des collectifs, des quartiers, des villages qui sont organisés de manière très autonome et très, très horizontaux dans leur terroir, avec certains échanges. Il me semble que moi, mon image de l'organisation politique, j'ai l'impression qu'elle est très proche de l'anarchie. Après, ce n'est pas forcément le cas de tous les objecteurs et objectifs de croissance qui peuvent imaginer, qui sont moins critiques envers l'État que, en général, je dirais, que l'anarchie. Mais il y a toujours une grosse... en France, il y a eu plusieurs militants qui ont participé à l'élection présidentielle, mais ce n'était jamais dans l'idée d'être élu. C'était toujours d'utiliser cette visibilité médiatique pour essayer de faire avancer les idées de la décroissance. Donc il y a très peu d'engagement institutionnel de la part des objecteurs et des objectifs de croissance. Pour nous, globalement, le système institutionnel politique est beaucoup trop lié au capitalisme, enfin, au puissant, et un problème en soi. Mais je dirais que c'est une réflexion qui est probablement moins aboutie chez les objecteurs de croissance que chez les anarchistes.
Et concrètement, c'est Yvan Lucarine, c'est ça ?
Oui.
Qui est à Vevey ?
Oui.
Est-ce qu'il y a un programme particulier qu'il veut mettre en avant et qui a des chances d'aboutir ?
C'est une excellente
question. Dans l'institution ?
Disons, c'est quand on observe leur... chaque fois qu'ils se sont présentés à des élections, parce que ça fait quand même 5-6 ans que ça dure, hein. Yvan a aussi été élu au Grand Conseil vaudois. Il y a un processus de rentrer dans les institutions. Et puis je dirais que c'est très clairement le groupe, le parti qui sont associés au niveau vaudois avec Solidarité, hein, dans l'ensemble à gauche, et puis localement à Vevey, c'est Décroissance Alternative. Mais c'est assez clairement le parti, le groupe, c'est pas vraiment un parti, hein, c'est un collectif qui occupent des fonctions, mais ils n'ont pas une structure de parti, c'est extrêmement aussi horizontal et informel. Enfin bref, ils ont un programme qui est écrit, qu'ils ont distribué, qui est beaucoup plus conséquent et sensé, pas seulement sensé, mais ils ont fait un travail vraiment de réflexion sur ce qui est possible dans l'institution qui est beaucoup plus sérieux que tous les autres partis. Si vous regardez simplement les documents avant l'élection, ben, l'UDC, les socialistes, les Verts, les Croissances Alternatives, ils ont vraiment un projet qu'ils ont soumis aux citoyens. Ils ont vraiment essayé d'avoir un programme clair, constructif, etc. Donc après, est-ce qu'ils vont y arriver ? Telle est la question. Est-ce que ce qu'ils proposent, c'est assez radical ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Est-ce que ça, c'est des questions qui seraient très intéressantes de prendre le programme, de dire est-ce que pour nous, c'est vraiment un programme radical ou pas ? Si c'est un programme assez radical, qu'est-ce qu'ils vont arriver à mettre en place ou pas ? Mais ils essayent de... Ils ont vraiment la volonté de faire une politique différente, beaucoup plus consultative, beaucoup plus... C'est pas pour rien que qu'ils ont été élus, alors que la décroissance est quand même un mec qui fait plutôt peur, parce qu'ils sont au contact depuis bien des années avec... ils organisent tout plein de choses au niveau local, des garderies, tout plein de collectifs. Les gens savent qu'en pratique, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose qui est construit quand même passablement d'en bas. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ça en étant dans les institutions ? Voilà, c'est une expérience assez intéressante à suivre.
Après, c'est vrai que Beauvais, c'est aussi un peu particulier parce qu'il y a quand même un historique industriel qui est assez important. C'est une ville où il y a énormément de populations étrangères aussi. C'est peut-être une ville qui avait en tout cas un terreau de gauche. Mais c'est vrai que les Croissances Alternatives, ils se sont peut-être distingués sur certains gros projets qui auraient dû avoir lieu à Beauvais, comme des grosses constructions immobilières ou des choses comme ça, sur lesquelles c'était peut-être le seul parti qui s'opposait, alors que Vert Socialiste était aussi dans le même camp que le PLR ou l'UDC qui est là avec une envergure quasi inexistante sur Beauvais, mais qui existe. Et puis que ça soit sur des questions de mobilité aussi, qui se sont distinguées avec des réductions des places de parc ou des choses comme ça. Et puis aussi une politique très proactive sur les questions immobilières, d'investir au renouvellement du parc immobilier de la commune, d'essayer d'acquérir d'autres logements pour les mettre en logements abordables, des choses comme ça. Donc voilà un peu ce qui les a distingués. Après, oui, ça reste l'exercice du pouvoir. C'est vrai que quand on discute avec Yvan, on voit aussi les limites. Ils sont au niveau communal, il y a des choses qui leur sont imposées au-dessus. C'est toujours de faire le maximum qu'on peut dans un cadre donné. Puis là, on se retrouve vraiment dans les limites de ce qu'on peut faire dans l'exercice du pouvoir aussi, même avec la meilleure volonté du monde. Et toutes les idéologies qu'on veut, on arrive peut-être, on va peut-être buter au bout d'un moment. Ça va être intéressant à voir quand ils auront terminé un mandat, en tout cas.
Ouais. Je rajoute une toute petite chose. Ce que tu dis, ça me fait penser, on discutait la dernière fois avec Yves dans la dernière réunion du journal avec lui, c'était vraiment intéressant. Il disait, il estime que il y a à peu près 3% du budget de la ville sur laquelle ils ont vraiment une marge de manœuvre. Donc ça pose pas simplement le cadre. Et puis c'est vrai que lui, il est syndic, donc tu dis qu'ils ont pas tout à fait une majorité au conseil communal, ils sont 49 sur 100 avec leurs alliés. Ils sont devenus le premier parti quand même du conseil communal. Ils sont deux...
municipaux.
Trois
avec Yvan.
Trois municipaux, oui. Donc ils ont une marge qui est rarement des mouvements d'extrême gauche qui ont eu dans l'institution, mais cette marge, c'est pas énorme. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe.
Quelque chose qu'on pourrait rajouter sur le contexte de Beauvais. Moi, je suis de Genève, en fait, mais de ce que j'ai compris, quand même, le mouvement des Croissances Alternatives a quand même été porté par des gros scandales, en fait, au sein de la mairie, et le fait que les partis de gauche traditionnels semblaient, enfin, en tout cas, je pense dans l'esprit d'une partie du corps électoral, semblaient y être associés. Après, là, pour moi, on est par contre sur une question de rupture assez nette avec la tradition libertaire, parce que l'idée, c'est pas uniquement en fait, de se dire « Ah, ben, on rend des institutions, puis enfin, on y fait ce qu'on peut ». La tradition libertaire, elle porte quand même une critique des institutions dans leur rôle dans la reproduction de la domination. Et il y a moins d'une vingtaine d'années, le mouvement social, le mouvement paysan, rejoint par des mouvements radicaux de différentes obédiences, manifestait devant le siège de Nestlé, qui est justement situé à Vevey. Et moi, enfin, à titre personnel, le projet du silure qu'on avait ici était dès le début, quand il s'est formé il y a 4 ans, une alternative voulue à solidarité. C'est-à-dire qu'on voulait justement faire des choix différents qui ont été que ceux de solidarité depuis les années 90, quand ils se sont fondés. Et je pense qu'il y a quand même des idées différentes du combat contre la domination derrière. Pour moi, le localisme, c'est en partie aussi l'idéologie du capital. En fait. De plus en plus, ils ont valorisé les start-up, les petites unités. Et je ne suis pas certain en fait, que le small is beautiful, c'est un truc suffisant pour renverser la vapeur dans le système actuel.
Moi, quand je t'entends, j'ai une question existentielle qui vient. En fait, j'ai 25 ans, je viens de finir mon master, je suis psychologue, et en fait, je me dis, j'entends tout ce que vous dites et c'est trop beau, mais là, maintenant, tout de suite, moi, si j'ai pas de travail, j'ai pas de nourriture, et puis du coup, j'ai besoin d'avoir tout ça, et puis du coup, je préfère l'investir dans le local. Et je me dis que localement, si je mets mon énergie là-dedans, ça sera plus adéquat. On est aussi dans un monde vraiment en transition. Et du coup, on doit, pour moi, aborder un peu tous les côtés. Et on ne peut pas... parce que là, moi, tout de suite, je ne peux pas vivre en autosuffisance, quoi. Je meurs. Enfin, je sais pas si...
Mais moi, ça m'intéresse ce que tu dis, parce que moi, j'ai fait des études en comportement animal, et là, je suis en train de faire une formation pour utiliser plein de logiciels de cartographie sur des ordi, sur des machins, et où je me dis, à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que, justement, ça sert à quoi de comprendre... Enfin, c'est intéressant de comprendre comment les animaux se déplacent, machin, mais si je veux les protéger, ça sert à rien de faire ça, quoi, enfin... Mm-hmm. Je sais qu'il faut que je m'engage dans des anarchistes, justement. Et que, justement, là, je suis en train de repenser ma vie dans un système où il n'y aurait pas toutes ces technologies. Mm-hmm. Et, justement, peut-être à moyen terme, je pensais devenir bergère. Mm-hmm. Parce que, du coup, il y aurait l'aspect animal, mm-hmm. comportement animal, et pas dans le monde technologique.
Ok, je comprends.
Mais voilà. Ouais. C'est des questions que vous posez.
Moi, je me sens pas capable d'être bergère parce que justement, je sais à quel point c'est.
Mais après, psychologue, on en aura besoin.
Je suis bon, beaucoup.
Je pense que c'est difficile de directement switcher.
Ouais, voilà, c'est
parce
ça.
Que là, je suis en train de continuer ma formation malgré le fait que je sais déjà que c'est pas viable. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai peut-être besoin d'avoir peut-être un peu d'argent, parce qu'après, là, j'ai plus rien.
Ouais, c'est ça.
Et qu'il faudra peut-être que j'ai un petit peu d'argent pour avoir plus d'espace mental après, si je me mets au chômage, pour créer d'autres choses avec des gens.
Merci. Est-ce qu'on pourrait peut-être évoquer des projets qui existent, par exemple, qui peut-être les voir sous l'angle où, justement, on voit la... Peut-être la correspondance des deux univers, l'anarchisme et l'écologie. Je sais pas, par exemple, un projet comme Longomaille qui est suisse. Ce serait intéressant d'avoir un retour de peut-être d'autres personnes ici, qui connaissent peut-être, de voir qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est justement par rapport à des personnes aussi comme toi, plus jeunes. c'est bien, je pense, aussi de se dire qu'est-ce qui existe, ou en tout cas quelles tentatives il y a qui sont plus ou moins proches. Ça m'intéresserait d'avoir. Moi j'ai été plusieurs fois à Longomaille, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient faire un retour peut-être plus politique ou... enfin, c'est aussi finalement un projet qui évolue, qui continue d'évoluer par rapport au tout début où il s'est formé dans les années, si je ne me trompe pas, début des années, fin des années 60 ou début des années 70. Et puis où ils en sont maintenant avec beaucoup de remises en question aussi, c'est intéressant. Et puis ça marche quand même, quoi. Donc, je sais pas si quelqu'un a envie de...
Je sais pas si je prends la parole du coup à la suite, avant de passer à peut-être ce
sujet. Ah, pardon. Quelqu'un qui... Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut rebondir sur ce que propose Laurence et puis peut-être, si ce n'est pas le cas, Laurence, peut-être que tu peux nous en toucher un mot, en quelques mots, et après on...
Oui,
c'est OK. Oui, alors, moi, je vais pas comme ça en tête tout, mais au départ, c'était des gens qui venaient de mouvements, je crois, des mouvements étudiants ou d'apprentis. Il me semble aussi des mouvements, enfin, corrigez-moi, il y avait aussi pas mal d'activistes qui se sont mis ensemble et qui ont décidé d'aller à l'époque en France, d'acheter des terres. À l'époque, la France était en plein dans sa période de centralisation, donc il y avait beaucoup de terrains qui étaient disponibles, pas chers du tout. Parce que personne ne voulait habiter dans ces zones qui sont rendues maintenant un peu des zones qui étaient mortes, ou enfin les villages étaient désertés, etc. Donc ils ont pu acquérir pas mal de terres en fait dans le sud. Ils ont commencé à se réunir ensemble, un groupe de personnes. Je fais vraiment aussi, s'il y a des gens qui peuvent me corriger. Et aujourd'hui, c'est quand même des gens qui travaillent et qui essayent d'avoir la maîtrise de tout le processus de production, c'est-à-dire, je pense que c'est ce qui est intéressant, avec notamment des moutons, ils ont des moutons, ils font la laine, ils font la filature, ils suivent toute la chaîne, ils maîtrisent toute la chaîne de production.
Ils vivent de dons, non ?
Pardon ?
Ils vivent de dons, non, c'est ça ?
Non, ils ne vivent pas que de dons, mais ils ont très vite intégré, peut-être parce qu'ils étaient justement, il y avait une habitude en Suisse par rapport aux fondations, etc., qu'il y avait un potentiel financier aussi de gens qui pouvaient soutenir financièrement. Donc, je pense dans le concept de fonctionnement, je crois que dès le départ, ça a été intégré cette possibilité de recevoir des dons. Mais c'est pas, ils ne vivent pas que dans les produits.
Mais une grande partie, je crois quand même.
Ouais, je crois que c'est la majorité.
J'avais été cet été, et puis j'avais eu une discussion. Ils disaient qu'ils étaient quand même beaucoup. Tributaire des donateurs. Et puis, c'est vrai qu'en regardant avec un peu de recul, si on veut critiquer un peu ce système, en étant constructif, ça me rappelle un peu le système monastique, où il y a une production faite par les moines, etc., avec une vente de cette production qui permet d'amener une partie des rentrées financières. Et puis, d'un autre côté, il y a tous les donateurs, des personnes qui croient à cette religion et qui vont les aider à subvenir à leurs besoins. Après, voilà, ça c'est une critique plutôt, voilà, on peut se dire, ok, comment est-ce qu'il fonctionnerait.
Est-ce que ça va être critiqué, c'est ça que, dans le système actuel, c'est ça que...
je pense que de toute façon, si je peux me permettre, j'ai assez l'impression que comme le système actuel, c'est un système capitaliste très vorace qui est à peu près... ronger tous les petits recoins qui restent. C'est assez difficile d'imaginer qu'on ait tout d'un coup une deuxième planète complètement libre sur laquelle on peut s'installer librement. Donc, je crois qu'eux ont pu s'installer dans une faille quand même. Et puis ils ont besoin de fonctionner parce qu'ils ne maîtrisent pas toute la chaîne de production. Quand j'ai été cet été, bah oui, en fait, ils ont presque plus de technologie sur place que moi. Parce qu'ils ont plusieurs frigos, ils ont plein de voitures, ils ont une télé, ils fonctionnent. Fonctionner comme moi, je fonctionne dans mon appart ici, sauf que ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se chauffer, ils ont besoin de se laver, etc. Et du coup, c'est la seule manière, je pense qu'on n'aura pas un système tout à fait pur à disposition, puis que toutes ces brèches sont bonnes à prendre. La brèche politique, pourquoi pas, la brèche institutionnelle, la brèche révolutionnaire. Enfin, de toute façon, tout s'inscrit dans un mouvement révolutionnaire. Après, moi, j'ai pas vraiment senti, j'ai eu peu de discussions vraiment musclées sur ces sujets très politiques. J'ai l'impression qu'ils sont très engagés sur la question de la migration, de l'accueil des requérants, etc. Mais j'ai pas senti qu'il y avait une âme très révolutionnaire dans leur projet. J'ai l'impression que c'est un projet qui alors c'était plutôt des personnes qui ont la cinquantaine, soixantaine, qui sont dans le projet depuis longtemps et qui sont installées là-dedans dans un confort assez intéressant. C'est qu'ils peuvent vivre, et j'ai trouvé qu'ils vivaient très bien le vivre ensemble horizontal. Ils avaient un fonctionnement qui était très simple, que les choses roulaient, qu'ils avaient des espaces pour résoudre les problèmes internes, etc. Et qu'ils avaient une très bonne cohésion entre les différentes fermes qu'il y a dans les différents pays, en France, en Allemagne, en Suisse. Et par contre, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui se veut longomai, ça veut dire, je crois en basque, qui dure longtemps. Mm-hmm. Et l'idée, c'était pas de faire quelque chose qui va se répandre sur toute la planète, mais de faire quelque chose qui puisse perdurer dans le temps. Et ils ont choisi de rester j'ai l'impression, assez petit, pour qu'ils puissent survivre longtemps sans être un mouvement qui s'enflamme et qui s'éteint très vite. Et après, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment installés dans une brèche et qu'à travers ces brèches-là, nous, on peut continuer à évoluer là-dessus. Je pense que c'est hyper intéressant.
Moi, je trouve intéressant la réflexion sur les communs justement qu'ils ont. Tu mets en commun tout l'argent, ce qui est quand même, suivant où ils sont, c'est quand même beaucoup. Enfin, ils sont passés 100 personnes et ils vivent. Il y a cette volonté quand même de tout partager, ce qui n'est pas clair. Évident du tout, comme tu l'évoquais avant, de mettre les choses en commun. Il y a une ou deux personnes qui font à manger pour 100 personnes, chacun son tour. Il y a beaucoup de choses, de travail, aussi des champs, ça passe quand même des travaux assez durs qu'ils vont faire. Donc, c'était juste un modèle qui existe, mais qui n'est pas peut-être idéal. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a eu deux articles, mais nous, personnellement, je ne sais plus qui c'est qui était allé à Longomai, mais on avait publié un reportage, et on a publié en deux articles de leurs mains, mais nous, personnellement, on ne connaît pas.
Merci.
Je propose encore une intervention, un dernier axe de discussion avant la pause, comme ça on va s'aérer un peu, comme ça pour ne pas faire de déçu ensuite.
Toi tu voulais intervenir aussi juste avant madame, c'est
oui,
ça
oui, c'était par rapport, je ne sais plus exactement quel était le thème qui était abordé, mais moi je voulais aborder le thème de la décroissance. J'aurais bien voulu discuter de ça.
Tu veux revenir sur la décroissance?
Si c'est possible, ça peut s'intégrer. On peut aussi. Je trouve assez intéressant de continuer sur ce qui existe et puis qu'est-ce qu'on peut bâtir aussi.
Ça, on peut le faire juste après la pause. Ouais. C'est une bonne manière d'entrer en.
Ouais. Exactement, revenir là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais.
Et donc, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir?
C'était pas grand-chose, c'était juste pour répondre un peu à ce qu'il disait tout à l'heure concernant le local, etc. Parce que du coup, c'était un peu. Je sais pas, en tout cas, dans ma génération, j'ai l'impression que c'est un peu une question qui revient souvent sur la responsabilité personnelle. Et ce qui engendre pas mal d'autres choses chez les gens. Et je sais pas, là, c'était partagé en ressenti du fait que le plus important, c'est pas tout d'un coup l'action directe en mode ah, mais est-ce que je soutiens quelque chose de plus global, ou bien de local, ou comme ça, mais c'est plutôt l'organisation au final. Parce que finalement, vouloir sortir de tout. Avant de s'être informé et de s'organiser, pour moi, ça fait pas tellement de sens. Mm-hmm. Je trouve que des fois, déplacer la question sur, moi, je fais ça avec le local en ce moment-là, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de ce local de plus commun et qui va permettre d'évoluer, parce que finalement, c'est cool de faire des choses petites et niveau localisé, mais c'est quand même vachement dépendant de facteurs qui sont pas tout le temps présents partout et qui offrent pas les mêmes possibilités à tout le monde. Et dans ce sens-là, je trouve ça intéressant de partir du local et de s'organiser ensemble.
Juste un peu en continuation de ça, c'était juste que je voulais réagir. Je suis arrivée au moment où tu terminais. Et après, les deux, là, vous avez réagi. Et moi, mon interrogation, c'est que j'ai l'impression que dans le parallélisme qu'on a fait entre anarchie et écologie, il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect quel est le point de vue ou l'analyse que chaque mouvement fait. Et d'ailleurs, je ne sais plus comment tu t'appelles là.
Sarah Chabezon.
Une de tes dernières phrases, ça a été de dire en fait, la différence entre l'écologie et l'anarchie, c'est que l'écologie fait une critique de la technique, c'est-à-dire un truc comme ça, ou de la technologie, tandis que l'anarchie fait une critique des techniques, de la production. Ça dit quelque chose comme.
Soit collectiviser la production.
Comment ?
L'anarchie, dans l'anarchie, c'est ça hein, ce que tu as dit,
oui.
Si je
ne
me trompe pas, oui. C'est la volonté de collectiviser l'outil de production,
voilà, c'est ça.
Au travers de la technique.
Voilà.
Dans l'écologie politique, il y aurait cette pensée technocritique de
voilà.
Toute façon la technique.
Voilà.
Ouais. Est-ce que ça nous embête si on revient, il y a le thème de la décroissance et le thème de la technocritique que moi aussi je voulais aborder.
Ouais.
Est-ce qu'on peut l'aborder après la pause
après, ouais.
Parce que du coup, ça relance sur un autre sujet.
Mais je vais continuer en fait.
Ah, pardon.
C'est juste pour dire que, voilà, il me semble qu'il y a le côté de voir quels sont les focus que chaque mouvement prend, quel genre de critique, sur quel plan il se place. Et puis après, votre intervention, les deux là, du coup, ça m'a fait réagir parce que j'ai trouvé ça bizarre d'un coup que tout de suite vous vous sentiez impliqué d'un point de vue de votre vie privée, quoi. Et je trouve ça. Il me semble que c'est une des dérives, moi, personnellement, qui me fait bondir dans le mouvement écologiste, c'est cette remise en cause de notre mode de vie personnel, individuel. Et ce que je veux dire, moi, ma conviction, c'est plutôt que ce système capitaliste néolibéral, il nous a dépossédé des différents, de toutes les dimensions de nos vies. C'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin d'être une bergère pour être complètement dans l'idéal de ce que j'aimerais vivre. Le souci, c'est plutôt que de penser les différentes dimensions de mon envie de m'expandre dans la société où je suis là, même si c'est une société qui est de merde, où il y a plein de technologies qui me nuisent, quoi. Enfin, comment dire, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que la critique, c'est pas de partir de soi. La critique, c'est de voir déjà, justement, quel genre de focus on a. Et puis après, enfin, l'autre dimension, c'est que je veux dire, c'est que il me semble qu'on parlait, vous parliez beaucoup de justement, quel genre de société l'anarchisme propose, voilà. Puis du coup, l'écologie, du coup, ça propose ça, on dirait, hein. C'est de se retirer du monde et puis de faire des ZAD. Enfin, voilà. Moi, c'est un peu ces points
en fait,
ce point de vue qui m'interroge et qui me font bondir. Voilà.
Ce que je disais, c'était sur. Enfin, ce que je suis pas allée au bout de ma pensée, mais en fait, là, à ce moment-là de ma vie, j'étais partie pour faire de la recherche. Et qu'en fait, c'était quelque chose de très spécialisé, ou alors ça me prenait tout le temps dans ma vie. Et moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir justement un métier déjà qui fait plus de sens dans le futur que j'imagine comme une société idéale, que je commence déjà à m'y adapter, à réfléchir à comment justement un métier qui pourrait correspondre à mon idéal, et en plus me laisse de l'espace mental pour m'organiser avec les gens autour de moi pour faire la révolution.
Je rebondis là-dessus, mais en fait.
Parce que j'avais pas tout le temps quand je.
Excusez-moi, je pense que.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Il oublie, il pardonne devant les assassinats.
Antifasciste, antiraciste, Libre Radio, une antenne d'alerte et de combat. www.libradio.org.
Il oublie. Pardon devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fascistes, jamais non jamais on baissera les bras, notre haine n'est pas fasciste.
Apparemment décroissance et technocritique, parce que c'était porté par deux personnes différentes, je vois pas grand chose.
Ouais.
Parce que, une volonté de vous questionner un peu plus en avant par rapport au thème de la décroissance, je crois, ou sur ce que vous entendez par là.
Moi, j'avais assez envie d'aborder ce thème pour justement aller voir les limites de ce thème-là. Moi, je le trouve très séduisant, ce thème, pour pour faire le lien entre les dégradations et autre chose que le capitalisme pur, en sachant que pour moi la décroissance c'est peut-être enfin, ou la croissance économique ou la croissance des richesses matérielles, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière à l'origine des règlements environnementaux actuels et futurs, et qu'il n'est pas uniquement une conséquence du modèle capitaliste, mais aussi de tous les modèles productivistes, expansionnistes, etc. Comme le communisme, enfin, certaines formes de communisme. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est utiliser ce terme-là, c'est peut-être aller pointer quelque chose de fondamentalement problématique, plus que le capitalisme, parce que c'est peut-être un des sous-ensembles du capitalisme. Et ça, je trouve vachement intéressant. Après, je suis assez d'accord que quand on veut la décroissance, est-ce que pour vous, ça veut dire que on veut faire, on va garder la même structure sociale, mais on va faire avec moins. Et là, moi, il y a quelques années, en me disant ouais, c'est super la décroissance, je vais faire tout pour militer pour être, même avoir le moins grand impact possible et le moins participer au système monétaire, réduire mon temps de travail, etc. pour le moins possible jouer le jeu de la consommation. Et ben voilà, si en effet boule de neige, peut-être que ça va toucher plus de monde et puis que au final on va réussir à diminuer la demande et du coup faire baisser la production parce qu'il n'y aura plus assez de demande. Et puis tout d'un coup je me suis dit, mais si je fais ça et si ça marche, au final qu'est-ce qui va en rester de nos institutions? Et par exemple, si la ville de Vevey devient très décroissante suffisamment, est-ce qu'on ne s'attend pas juste à un effondrement de la ville de Vevey, parce que ses fondements, c'est la croissance économique pour rembourser l'intérêt de la dette, enfin l'intérêt des engagements investis? Et du coup, est-ce que la pensée de la décroissance peut s'inscrire dans une institution comme la nôtre, ou bien est-ce que c'est un moyen d'aller vers l'effondrement de l'institution? Est-ce que c'est... On peut penser un Vevey, par exemple, pour prendre un exemple local. Est-ce qu'on pourrait penser une Vevey décroissante avec des gens qui reçoivent plus forcément de salaire, où il n'y a plus forcément de pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir acheter du pétrole pour mettre dans les moyens de production alimentaire, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'était long, je suis désolé.
Après, il y a déjà une proposition.
Ouais. Je sais pas, c'est juste pour rebondir sur l'idée de Vevey ville décroissante. Pour moi, l'effondrement de Vevey viendrait plutôt si Nestlé quitte la ville plutôt qu'à travers n'importe quelle institution politique, parce que tout simplement, je sais pas, 80% des personnes qui habitent à Vevey bossent pour Nestlé. Donc même avec tout le bon vouloir, toute la bonne volonté de n'importe quelle institution politique, n'importe quel mouvement politique, tant que 80% de la population bosse pour cette multinationale, pour moi, il n'y a pas de possibilité en soi de décroissance dans cet axe-là, dans cette ville-là en particulier. En fait, c'est juste pour rebondir là-dessus. Ça me pose problème d'imaginer une Vevey décroissante tout en n'abordant pas la question Nestlé, en fait. Mais je sais que c'est très local.
Bon, après, c'est dans le sens où moi je l'entends, c'est... Pour que Vevey existe, elle a besoin d'apports matériels, elle a besoin d'apports financiers, elle a besoin de toutes les infrastructures existantes, elle a besoin de... Ben justement pour les questions matérielles, elle va avoir besoin aussi de l'exploitation des minerais dans les pays exploités. Et comment est-ce que... parce que la décroissance, ça pourrait aussi dire on veut plus de Nestlé. À Vevey, parce que la Nestlé s'inscrit dans un processus de croissance exponentielle, d'accumulation de richesses matérielles. On veut plus ça, du coup on la dégage.
Oh, mais c'est pas
et
possible.
Puis du coup il n'y a plus de rentrée de salaire.
Ça c'est pas possible.
Et, justement c'est un peu ça où moi j'ai découvert que finalement la décroissance c'était bien sûr chouette, peut-être qu'il y a la destruction d'un système, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut faire mesurer la vivre sans croissance dans le même système? Ça a l'air d'être assez antinomique.
Oui, n'y a pas de mode d'emploi de la société parfaite décroissante. Mais après, tu parlais de PMO avant, par exemple, les structures en communauté ou des choses comme ça. Dans une société décroissante, moi j'ai l'impression qu'on se dirige vers beaucoup plus d'autarcie, avec des systèmes d'échanges locaux,
qu'en fait, dans un système actuel, c'est pas possible de mettre en œuvre parfaitement un projet décroissant en sachant que tout notre système est dépendant de la société libérale dans laquelle on est. Mais du coup, c'est prendre en compte les limites planétaires, c'est prendre en compte son impact sur l'environnement, mais aussi sur la société. Et du coup, c'est un système de société qui serait beaucoup plus résilient, en fait. Ça serait plutôt ça comme base, en fait, dans une société décroissante. Du coup, elle serait beaucoup plus résiliente par rapport à son environnement. Et puis, elle aurait des rapports sociétaux plus apaisés. On se rapproche de ce qui est dans les modes de fonctionnement peut-être anarchistes, de rechercher l'horizontalité, d'avoir le moins possible d'accaparement de pouvoir au sein de quelques personnes, voilà, des choses comme ça.
Alors, il y a Vincent, et toi, deuxième, ouais.
Ça va dans ton sens. Effectivement, la société aujourd'hui est tellement basée sur la croissance au niveau économique. Si on va vers une décroissance, ça s'écroule. C'est la montée du chômage, c'est la pauvreté, c'est tout ça. Et c'est une des remarques qui a souvent été faite. Après, il y a une des réponses qui est souvent amenée, c'est que bon, il y a la décroissance subie et la décroissance choisie, quoi. Et quelque part, faut pas le voir comme quelque chose qui sera du jour au lendemain, mais de tenter un peu, comme ça a été dit par quelqu'un, de faire des brèches dans le système et de petit à petit construire quelque chose pour avoir cette résilience qui a été apportée. Et je pense que c'est ça un peu la réponse à avoir, mais c'est quelque chose qui est, si on va au fond des choses, fondamentalement anticapitaliste. Ça peut pas, on ne peut pas le développer dans ce système-là. Ça, c'est une certitude. Et je pense que c'est là où les anarchistes et les écologistes radicaux se regroupent le mieux. C'est cette vision de dire, en fait, c'est un point d'impact contre le capitalisme. Mais c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on va mettre à la place et comment on va survivre à ça, parce que ça signifie quand même de la douleur. Enfin, pas de la douleur, mais il y a quand même cette question de faut qu'on continue à manger. C'est aussi un peu une des remarques qui a été faite avant, c'est que on va quand même nous approvisionner, et le système il fonctionne sur une croissance, et sans ça il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, et c'est délicat de conjuguer tout ça d'une manière assez assez bien, sans que ce soit les plus riches qui s'en sortent et les plus pauvres qui perdent leur boulot, puis qui aient de la peine avec les fins de mois, quoi. C'est vrai. Et l'un des problèmes qu'il faut, à mon avis, que la décroissance et l'écologie d'une manière générale fassent gaffe, c'est effectivement cette question de ne pas trop individualiser les choses. Et c'est un peu ce que tu avais soulevé juste avant. C'est que dire, effectivement, il y a un combat collectif à mener. Et que si on est tous à se dire, je fais mes trucs, j'essaie de m'en sortir, ou je fais mes choix écolo, en fait, on va rien changer à la question. Et, voilà, c'est un peu ça qui me frotte aussi dans la tête, dans ce genre de débat. Ouais. Comment pas opposer, enfin ça ressemble beaucoup, comment pas opposer les points de friction comme ça.
Moi j'avais une question à nos deux intervenants là, au sujet de la décroissance qui bien souvent est perçue comme un retour à quelque chose de pré-néolithique. Et du coup, faut-il pour autant renoncer à l'ordinateur ? Pour ma part, je serais assez favorable à ce qu'on n'y renonce pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre de tâches qui peuvent être menées par des ordinateurs qui nous passeront bon, puis qu'on peut très bien faire avec un ordinateur. C'est une question de mesure. De la même manière, je trouverais dommage qu'on renonce à la machine à vapeur, ou bien au moteur à explosion, ou si possible, le moins polluant possible. Comment est-ce qu'on arrive à une décroissance qui ne renonce pas aux acquis, parce que souvent, bon, ordinateur, il est étiqueté capitaliste, mais en soi, c'est une machine. Et elle ne fait que ce que des humains lui demandent de faire. Les machines ne vont pas prendre la possession de la Terre. ce sont des humains qui disent aux machines de ce qu'elles doivent faire. Donc c'était juste cette question que je voulais que vous puissiez un petit peu développer, la décroissance, mais dans la caricature qui est souvent donnée par hasard par des milieux très capitalistes, c'est on va se retrouver à l'âge de la pierre et puis on va chauffer avec du bois. Je ne pense pas que ce soit ça. Comment est-ce que vous avez une image de décroissance qui ne renonce pas à tout sans pour autant continuer à se vautrer dans le luxe aux dépens du reste de la planète?
Moi, je te laisserai répondre parce que là, c'est vraiment une question de technocritique. Là, hein.
Oui, effectivement, ça pose la question de la critique de la technique. Alors, je dirais déjà simplement la question, effectivement, c'est beaucoup de critiques de la décroissance, on dit vous voulez retourner à l'âge de la pierre. Donc il faut savoir, enfin la décroissance, il y a vraiment une pensée des limites. C'est-à-dire que c'est évidemment pas la décroissance pour la décroissance, c'est pour rentrer dans les limites de ce que la planète peut nous offrir. Donc on a quand même une assez bonne idée de ce que la planète donne de manière soutenable. Voilà, les forêts se renouvellent, l'eau se renouvelle, mais jusqu'à un certain point. Donc le niveau, la question, c'est pas tellement de se demander est-ce que l'ordinateur, enfin dans un premier temps, est-ce que l'ordinateur est utile ou pas, c'est est-ce que c'est possible d'utiliser et de produire des ordinateurs à l'intérieur du cadre que nous met la nature. C'est une première question. Si on part de nos propres besoins, qui sont une bonne partie subjectifs, chacun va vouloir conserver d'autres choses parce que ça lui semblera plus important. Donc il y a une réflexion collective à avoir sur quels outils on conserve ou pas. Il faut savoir aussi que les limites écologiques, elles ont été dépassées. Alors c'est des calculs qu'on peut discuter, mais en gros, la capacité écologique en Suisse a été, enfin, dans la plupart des pays occidentaux, a été dépassée dans les années probablement 60 ou 70. Alors aujourd'hui on est plus, donc en gros c'est peut-être les années 50. Les années 50, c'était pas tout à fait l'âge de la pierre. Par contre, effectivement, les gens n'avaient pas de bagnole, pas de téléphone portable, voyageaient pas en avion. Donc voilà, la décroissance, elle met l'accent sur le fait qu'il y a un certain cadre. Et puis qu'à l'intérieur du cadre, par contre, les collectivités s'organisent comme elles veulent. Peut-être certains auront envie d'avoir des ordinateurs, mais du coup, ils vivront dans des cavernes. Et puis, c'est pas tellement ça la question. Chaque collectivité s'organisera comme elle veut, pourvu qu'elle respecte le cadre de ce que la nature permet. Et puis après, une petite chose par rapport à ce que tu dis, l'exemple de l'ordinateur, je pense que c'est un très bon exemple, parce que, autant pour des objecteurs de croissance que pour des anarchistes, est-ce que l'ordinateur, alors évidemment c'est comme beaucoup de ces technologies qui nous apportent tout plein de choses, qui nous simplifient tout plein de choses, mais qui créent tout plein d'autres problèmes. Est-ce qu'on peut imaginer une production d'ordinateur avec tout ce que ça nécessite en termes de ressources, de matières premières, d'énergie pour faire tourner les serveurs, etc. C'est de faire le bilan, de réfléchir collectivement. Est-ce que les ordinateurs, vraiment, c'est vrai qu'ils nous rendent des services, comme la bagnole nous rend des services, comme les centrales nucléaires nous rendent des services, mais est-ce que ça en vaut la peine? Avec le fait que c'est des technologies qui nécessitent... c'est difficile d'imaginer une production d'ordinateurs et des serveurs sans multinationales, sans... Donc voilà, nous on a l'impression que le monde décroissant sera plutôt sans ordinateurs, mais bien peut-être qu'il y aura quelques ordinateurs, on peut imaginer comme une bibliothèque dans chaque quartier ou dans chaque village, avec quelques ordinateurs peut-être partagés ou en tout cas progressivement. Mais globalement, ce que je veux dire encore, c'est que les technologies ne sont pas neutres. Hein. Ce que tu disais, de dire finalement c'est l'être humain qui va faire ce qu'il veut des outils, ça je pense c'est un des gros apports de l'écologie politique, en particulier des grands penseurs des années 70, les Illich, les Castoriadis, etc., qui montrent que non, justement, la technologie n'est pas neutre. C'est pas seulement je peux bien l'utiliser ou je peux mal l'utiliser, mais les technologies sont des médiations entre les êtres humains et puis le monde. Et suivant quelle technologie tu utilises, tu crées un autre monde. Et du coup, le fait de... Voilà, on peut vous donner plein d'exemples, mais au niveau de, je sais pas, de communiquer avec quelqu'un, si j'envoie un mail, si j'écris une lettre, j'ai un autre rapport au ton. Et j'écris un mail ou j'envoie un WhatsApp, j'ai un retour tout de suite, j'attends quelque chose de beaucoup plus rapide, tu accélères le monde. Et ça, c'est la technologie qui crée ça. C'est pas seulement l'utilisation. Bien sûr, tu peux bien utiliser... Internet, où je peux mal l'utiliser, je peux aller regarder un film porno, ou bien je peux organiser une réunion comme aujourd'hui. Donc bien sûr que On peut faire des bonnes choses ou des mauvaises choses avec l'Internet, mais il faut aller plus loin et puis se rendre compte que chaque technologie a un impact, transforme le monde. Et du coup, collectivement, chaque communauté doit se dire, dans notre approche, est-ce qu'on veut vraiment utiliser cette technologie ou pas? Et puis, voilà, il y a des seuils, mais c'est des seuils qui sont pas des limites figées. C'est à partir du moment où on veut un peu plus de technologie, pour les produire, il faut détruire en partie les liens sociaux. Donc jusqu'où on a envie d'avoir des sociétés très simples, mais très riches socialement, mais avec un faible développement technique. On va avoir plus de développement technique et du coup, on crée d'autres problèmes. Et puis certaines communautés peuvent... on n'a pas tous besoin d'avoir la même chose, mais disons que il y a ce cadre, disons.
Merci.
Oui,
alors, en fait, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand on se présente comme décroissant, ou personnellement, je préfère en tout cas justement pour cette raison l'expression objecteur ou objectrice de croissance, on ne s'oppose pas forcément à l'utilisation d'ordinateurs ou à des actions très spécifiques. On pense même à une lecture de l'organisation de l'économie, c'est-à-dire que la lecture via la croissance du PIB, c'est-à-dire où chaque opération économique indépendamment de son impact écologique, va être comptabilisé. Plus il y en a, plus ça fait du PIB. Je crois que c'était Mélenchon qui disait que en creuse un trou, ça fait un peu de PIB. On le rebouche, ça fait encore plus de PIB. Au final, le résultat, on n'a pas avancé du tout, mais le PIB, lui, il a cru, il y a eu de la croissance. Et c'est ça, surtout, qui est dénoncé dans la logique des objecteurs de croissance. Donc, si je le comprends bien, moi, j'avais cette impression. Est-ce que c'est faux? Est-ce que, finalement, il y a vraiment l'idée qu'il y a certaines opérations qui ne doivent pas être menées, ou certaines doivent être être menées en sens inverse de celles préconisées par les gens qui veulent la croissance, donc décroissance. Je ne sais pas si ça...
Ça me fait c'est naturellement penser aux technologies de captage de CO2 ou des choses comme ça, où on dit en fait on va décroître, mais ça par exemple c'est pas du tout une pensée décroissante de dire d'utiliser un moyen technologique ultra high-tech, on n'a pas du tout le contrôle de l'outil pour corriger des problématiques globales. En fait, la question du PIB, en fait, ce qu'on a rapidement vu et qui allait à l'encontre en fait du discours libéral, au bout d'un moment, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait un découplage entre l'augmentation du PIB et les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc on disait, en fait, ta machine à laver par rapport à celle d'il y a 20 ans, elle est beaucoup plus efficace. Elle consomme 20 fois moins d'eau, 18 fois moins de kilowattheure, etc. Et en fait, c'est par exemple, Mathieu en a parlé au début, c'est l'effet rebond. Donc ce qu'on a vu, c'est que il n'existe pas ce découplage. En fait, il n'y a pas de découplage entre le PIB et les gaz à effet de serre. Tant qu'en fait, on est dans une société ultralibérale qui fonctionne, où tout son fonctionnement est basé sur la croissance du PIB, en fait, tous nos systèmes sociaux sont dépendants de la croissance du PIB. On parle de l'âge de la retraite parce qu'on est complètement... on ne sait plus quoi faire parce qu'on se dit, on a plein de milliards à compenser, les gens, ils prennent la retraite trop tôt. En fait, on est toujours dans un système de pensée où c'est impossible même d'imaginer, d'envisager de pouvoir atteindre les limites planétaires dans un système comme ça. Parce que de facto, il s'effondre, en fait. C'est pour rentrer en fait dans les limites planétaires, pour rentrer dans une capacité de renouvellement de nos ressources, si on dit simplement qu'on décroît, tout s'effondre et puis on se retrouve dans un chaos total où on se retrouve du jour au lendemain avec des chaînes de production qui sont complètement coupées parce qu'il n'y a plus d'essence pour les camions, j'en sais rien. Tu vois, à la Migros, il n'y a plus rien à manger. Et puis, en fait, du coup, ça ne va pas. Dans la pensée décroissante, donc c'est quand on parle de décroissance, c'est un système politique global en fait. Hein, donc c'est vrai que c'est un espèce de mot ubu, ce décroissance, mais l'idée politique derrière, elle est plus vaste. Et puis du coup, le projet politique, il est aussi plus vaste. Que l'aspect économique qui est très important et qui a été très important au départ, c'est pas simplement la décroissance du PIB, c'est plutôt rentrer dans un système résilient dans lequel on peut vivre en harmonie avec les ressources de la planète. Et du coup, ça demande à ce qu'on réadapte complètement notre société.
Moi, je voulais réagir par rapport à l'ordinateur aussi. Moi, j'avais fait la lecture de la convivialité d'Ivan Illich et je trouve que c'est un très bon outil pour juger de l'usage de chaque outil. C'est de définir, d'explorer son degré de convivialité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vivre avec, est-ce qu'on peut le fabriquer, est-ce qu'on peut le réparer, est-ce qu'on peut l'utiliser quand on veut, ou bien est-ce que c'est juste qu'on l'utilise quand on veut, est-ce qu'on est dépendant, est-ce qu'on peut s'en passer, bref, toutes ces questions-là qui sont vraiment intéressantes pour savoir jusqu'à quel outil on peut utiliser, et je pense que c'est assez intéressant. Moi, je me fixe, j'ai aussi lu, lui, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les idées d'Illich, c'est Philippe Biewit qui avait écrit L'âge des low-tech en 2014 et qui va poser peut-être sa limite à la mondialisation. Pour fabriquer un Airbus, il faut 295 pays qui fabriquent je sais pas combien de millions de pièces. Pour fabriquer un ordinateur, c'est à peu près pareil. Il faut avoir un système monde globalisé pour pouvoir acheminer les différentes parties, etc., les différentes composantes. Il faut un système économique, on est là-dedans. Et je pense que moi, je me suis un peu fixé cette limite, c'est personnel, c'est de me dire ce qui est possible que grâce à la mondialisation, pour moi, je vais essayer de mettre un trait dessus, à part si c'est pour l'utiliser pour justement contribuer à un monde différent et que c'est un outil transitoire qui me permet d'avoir la puissance suffisante pour pouvoir transmettre des idées ou de pouvoir me fédérer avec d'autres. Et dans ce sens-là, je pense que l'ordinateur a malheureusement, pour moi, pas sa place, dans le sens où c'est très difficile. Là, j'ai eu un problème avec mon portable. Bon, déjà, j'ai cherché un chargeur, et personne qui a pu me dépanner. C'était pas très convivial, parce que du coup, je peux pas l'utiliser. J'ai mon écran qui s'est cassé il y a quelques jours. Et j'ai dû aller chez un réparateur qui a plein de pièces détachées qui sont fabriquées plutôt en Asie. Il me manquait le bon tournevis. Du coup, je ne peux pas le réparer. Enfin bref, il y a plein de contraintes qu'il y aurait aussi avec des outils conviviaux qu'on fait chez nous, parce qu'au bout d'un moment, ils sont usés, ils cassent. Est-ce qu'on a toujours assez de fer? Est-ce qu'on a assez de matières premières pour pouvoir les reconstruire, les chalets, les maisons? Tout ça, ça se pose aussi comme question. Mais avec un ordinateur, on n'est pas très résilient. Et puis, je voulais aussi réagir sur le fait de la neutralité, que je pense que tu as très bien exposé. Je voulais apporter peut-être d'autres arguments. Là-dessus, c'est que les technologies actuelles sont des technologies qui ont été créées par des organismes qui ont déjà une certaine puissance. Et ils ont été créés dans l'idéologie de la croissance économique pour créer des nouveaux besoins, créer des nouveaux marchés, et puis se rendre indispensables. Et du coup, nous déposséder d'une certaine manière. On est obligé de passer par ces grandes boîtes qui ont fabriqué les ordinateurs comme Microsoft, etc., qui sont devenues hyper puissantes et qui peuvent payer énormément de gens pour réfléchir sur comment créer de nouveaux besoins et comment enfermer finalement les gens dans cette obligation de leur reverser de l'argent en permanence. Et de là, je pense qu'on ne peut pas partir du principe que la technologie elle est neutre parce qu'elle est déjà biaisée dans l'œuf, parce qu'elle est conceptualisée pour les besoins du concepteur, qui est de faire de l'argent, de faire de la croissance économique et d'augmenter son pouvoir individuel ou le pouvoir de son groupe.
Et puis une autre chose qui montre quand même assez clairement que la technologie n'est pas neutre, c'est les dégâts environnementaux qu'elle crée. Pour l'extraction jusqu'au démantèlement, on voit qu'il y a des dégâts environnementaux qui sont sur toute la chaîne. Et notre usage là-dedans, eh ben oui, on peut augmenter encore ces dégâts en faisant un mésusage, ou peut-être utiliser son ordinateur pour essayer de lutter contre l'extraction minière, mais on ne va jamais enlever les dégâts qui ont été créés par la production et par ce qu'on appelle le cycle de vie de l'outil. Et dans ce sens-là, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces quelques outils pour discriminer nos outils. Et ça demande, et quand on dit on va parvenir souvent à la bougie, on dit souvent on va parvenir à la bougie. Mais si on regarde la bougie actuelle, les bougies sont toutes faites avec une base de pétrole, et elles sont plus faites avec de la cire d'abeille, du village, etc. Donc en fait, si on n'a plus le système globalisé, on n'a peut-être même plus la bougie. Et du coup, c'est déjà une technologie qui est très avancée, la bougie. Surtout si elle est faite localement. Et qu'est-ce qu'on a comme technologie qui nous sont propres ? En fait, on n'a plus grand-chose. Parce qu'on a d'une certaine... C'est pour ça qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va manger demain si on sort du système ? Parce qu'on est complètement dépossédé de nos moyens de production. On ne peut plus faire notre alimentation. On n'a pas les connaissances, on n'a pas les compétences, on n'a pas eu le temps de les affiner, on n'a pas suffisamment de terres, de territoires pour pouvoir expérimenter et cultiver. Et voilà, je crois que je m'arrête. Merci.
Moi, je souhaiterais rebondir sur l'idée de décroissance et des limites planétaires, en fait, dans le sens de la limite planétaire et des services écosystémiques, entre guillemets, rendus par la planète. Donc, pour moi, déjà, c'est une idée qui, je trouve, problématique au niveau de l'écologie politique, de l'anarchisme, de considérer que la planète nous rend des services écosystémiques, que la planète nous donne quoi que ce soit. Pour moi, l'idée de la décroissance, entre guillemets, c'est le fait de fixer un seuil d'exploitation maximum tolérable, en fait, au lieu de penser vraiment que c'est quelque chose qui est un pas en avant. Non, pour moi, c'est une raréfaction de l'exploitation à un seuil que l'on peut tolérer. Pour moi, c'est quelque chose qui est inhérentement incompatible avec l'idée d'anarchie telle que je la perçois dans la nature, dans le sens où la nature, non touchée par l'homme, c'est une connexion de, entre guillemets, de groupes affinitaires, d'écosystèmes, d'écosystèmes plus petits, plus larges, qui sont en autogestion totale et qui sont en communication. Et le fait, pour moi, simplement de perturber ça et de nous choisir où fixer ce seuil d'exploitation maximale dans notre idée de décroissance, c'est pas quelque chose qui est... forcément pertinent. C'est tout ce que je voulais ajouter, en fait. Je trouve que cette idée à laquelle on s'attache tellement de fixer un seuil à nos dégâts sur cette planète, c'est en quelque sorte rester aveugle au fait que c'est quand même une domination que on refuse d'accepter, en fait, juste parce qu'on en profite. Et ça nous remet un peu au même niveau que ces capitalistes qu'on critique tous les jours. Donc, voilà.
Je peux juste me permettre de préciser, il y a une question de terme, hein, mais... À partir du moment où tu dois manger, tu vas devoir tuer même une carotte, ou tu vas devoir. Donc, c'est pas ce que je voulais dire, c'était pas fixer un seuil d'exploitation maximale, c'est-à-dire que l'être humain doit trouver sa place. Et puis c'est normal que l'être humain, c'est un être vivant, c'est un être naturel, donc il a le droit, je sais pas si c'est le bon mot, mais on a le droit d'être là. Et puis quand je respire ou quand je fais un pêche, je dégage du CO2, donc du coup, à l'extrême, ce que tu dis, ça peut. C'est un peu aussi quasiment cette idée de dire que l'humanité est une peste et puis qu'elle ferait mieux de disparaître. Donc peut-être je me suis mal exprimé, hein, je ne veux pas du tout dire qu'on a l'idée qu'on doit avoir un niveau maximum d'exploitation. Si je l'ai dit comme ça, c'est pas ce que je voulais dire. C'est simplement que l'être humain doit trouver sa place et puis avoir des moyens matériels qui lui permettent de vivre sans empêcher les autres formes de vivre leur vie. Hein, exprimé peut-être dans des termes un peu économiques, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne s'agit pas du tout de définir un optimum d'exploitation. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire.
Mais malheureusement, même de manière très réaliste, c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour, j'ai l'impression dans la plupart des mouvements de décroissance qui restent quand même accrochés à un système peut-être monétaire, un système qui, malgré les brèches, reste au final dans ce système dans lequel nous vivons. Le seuil que l'on tolère est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait se permettre. en fait, vis-à-vis de quelque chose qui pourrait réellement se renouveler. Enfin, l'humain n'est pas prêt à redescendre dans ses niveaux de confort à un niveau tel qu'il pourrait coexister de manière égalitaire avec tous les autres organismes, je dirais, sur cette planète, en fait.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je ne comprends pas en quoi tu critiques la décroissance pour ça. En fait, c'est ça que je ne comprends pas, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi.
C'est juste un mouvement politique qui ne va pas jusqu'au bout des choses, en fait.
Pourquoi ?
Qui ne va pas jusqu'au bout.
Oui, j'ai compris, mais pourquoi ? En quoi, plutôt, qu'il ne va pas au bout des choses ?
Parce que malgré la décroissance, l'humain serait quand même disons, dominant sur la nature. Pour moi, l'idée, ce ne serait pas forcément de décroître, ce serait plutôt de réparer les dégâts, en fait. Je ne sais pas. C'est peut-être pas encore très développé, mais c'est juste que je trouve vraiment problématique que cette idée tout le temps de limite de la planète soit présentée de cette manière-là, comme quelque chose d'inévitable et non comme quelque chose qui a été causé par l'humain. Enfin, c'est comme si on disait « Ah, c'est dommage, la planète, elle produit pas assez, alors maintenant, c'est à nous de s'adapter. » C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait l'exprimer, je pense. Et dire « Ah, nous, on consomme trop, on doit s'adapter à la planète un peu. »
Ouais, je vois ce que tu veux dire, je partage aussi.
J'ai oublié.
Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression, enfin là, je suis en train de... Je ne suis pas encore trop calée sur le sujet, mais qu'il y a certains penseurs, anarchistes, qui pensent qu'il faudrait retourner à une société de chasseurs-cueilleurs pour être au maximum dans la non-exploitation et dans le impact envers notre environnement. Après, c'est difficile, je pense que c'est très très difficile de le concevoir, vu comment nos modes de vie actuels, et déjà même de retourner à un mode de vie... même sédentaire, mais justement avec une écologie, c'est déjà très difficile à concevoir, mais du coup, tous les chasseurs-cueilleurs. Mais ce serait potentiellement quelque chose.
Ça veut dire que c'est
visiblement, ça n'a pas vraiment existé.
Oui, justement, après, c'est peut-être aussi un mythe de penser qu'à une époque, on n'avait jamais eu d'impact sur la planète. Parce que dans chaque fois qu'on colonise un territoire, on a eu des impacts sur la mégafaune qui a disparu, enfin, des choses comme ça.
Il y a un excellent livre qui est bien sorti en français là-dessus. Le livre de David Graeber et David Zwango.
On en a parlé, je crois.
Au commencement, qui remet en question ces théories très linéaires. De
ouais, mais justement, il y a
Comment il s'appelle, tu dis
David Graeber.
David Graeber, David Zwango, commencement d'une nouvelle histoire de l'humanité.
Juste pour réagir, parce que je connais pas tellement ces mouvements de pensée anarchiste qui pensent qu'il faudrait revenir à l'état de chasseur, chasseuse, cueilleuse. Mais je crois, de ce que je me souviens, l'être humain s'est sédentarisé quand il y a eu le début de l'agriculture et de l'élevage, etc. Enfin, surtout l'agriculture en fait. Et du coup, je me demande un peu s'il y a plus de précision sur ce courant de pensée, parce que déjà, avec le nombre où on est, on ne peut pas se permettre d'être chasseur, chasseuse, cueilleuse parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Et en plus, du coup, en étant sédentaire, c'est carrément... Enfin, je sais pas, en tout cas, comme je le perçois, c'est quasiment impossible, quoi. Enfin...
Bah justement, ce livre qui remet en question cette vision très linéaire, comme quoi il y a eu les chasseurs-cueilleurs, après l'agriculture, après les villes, etc. Ça montre que c'était pas du tout si... Il y a eu plein de modèles de socialité bien différents avec la personnalité. C'est hyper intéressant, je pense. Ça permet d'ouvrir les perspectives.
Et au passage, David Graeber est un grand anthropologue, puisqu'il est décédé l'année dernière, grand anthropologue qui se définissait, enfin qui avait un militantisme et qui s'inscrivait dans l'anarchisme, justement. Et apparemment, ce bouquin est incroyable, effectivement. Effectivement, il va falloir conclure. Toi, tu voulais encore intervenir là-dessus ou...
Oui, ben, si je peux, volontiers. Moi, ce que je ressens quand même, c'est la position de l'individu et la nature mauvaise de l'humain. Peut-être dans ce que... je sais pas, c'est ça que ça m'a évoqué. Vraiment la question de la nature humaine, et je pense qu'il y a un grand champ d'exploitation du système actuel à nous faire croire que c'est par nature qu'on est des sous-chefs. Et je pense qu'effectivement, comme chaque espèce, on a besoin de fonctionner avec le vivant.
et qu'on a besoin de partager avec le vivant, que ce soit en prenant la vie pour s'en nourrir, pour ensuite, voilà, je pense ce que j'aime me dire, c'est que ma seule vraie mission sur Terre, c'est de faire caca et pipi un endroit où ça peut favoriser la perpétuation de la vie, c'est-à-dire où ça va nourrir des micro-organismes, etc. Donc sûrement pas dans l'eau, comme on a tendance à le faire ici. Mais je me dis qu'on peut se considérer comme étant des êtres faisant partie du monde vivant et qu'on peut aussi prendre notre place. Certes, on est un peu biaisé par notre civilisation parce que je crois qu'il y a, ben voilà, il y a 10 000 ans ou 12 000 ans, on était plutôt 5 millions sur la planète d'individus. Maintenant, on est plutôt 8 milliards. Donc, c'est plus la même donne. Donc, il y aura probablement aussi, qu'on le veuille ou non, un rééquilibrage du moment où on n'a plus la puissance énergétique pour transformer le monde pour mieux y survivre. Et je pense aussi que j'ai rencontré des gens qui tendaient au salvivorisme, c'est de manger du sauvage et de refaire corps avec des théories qui sont vraiment très séduisantes et que je partage. C'est celle de dire, si on décolonise le monde domestique, si on enlève les espaces domestiqués par l'humain, à ce moment-là, on aura un rayon sauvagement qui permettra à beaucoup de gens de s'alimenter et aussi aux autres espèces de cohabiter. Et ça, moi, ça me séduit beaucoup. Malheureusement, c'est la même chose que qu'est-ce qu'on mange demain. C'est vu l'effondrement biologique, l'effondrement du biologique sauvage qui est en cours, si on s'inscrit dans un système où on veut se fondre dans le sauvage, on a aussi beaucoup plus de risques à court terme d'être éliminé par le système destructeur. Dans le sens où, si on veut manger, si on veut retourner à une vie de chasseur-cueilleur, il faut qu'il y ait assez de nature, assez de ressources pour qu'on puisse y survivre. Et ça, ça demande probablement de faire un chemin qui va prendre du temps pour décoloniser un peu les espaces. Mais je pense que c'est tout à fait complémentaire et que ce qui est important, c'est de savoir quelle place on a le droit de se donner. Et ça, on doit apprendre parce qu'on ne l'a pas appris.
Encore les deux dernières interventions, parce qu'on s'était promis 9h, donc on a 2 minutes pour 2 interventions. Il y en a une là-bas.
Je voulais juste dire que quand je réfléchis un peu à ça, et bon, les personnes qui disent l'année-monde et la décroissance, etc., il y a une idée qui me vient aussi à l'esprit, et c'est que si on peut faire la décroissance possible et à l'heure actuelle, il faut aussi mettre les mains sur notre sexualité, sur les nombres d'enfants qu'on a, et je trouve joli de voir comment ça fait un peu un passé un peu transversal où ça arrive aussi au féminisme et à prendre soin aussi des notre sexualité et de notre reproduction. Et voilà, c'était tout ça.
Je peux vite conclure là-dessus en disant que les anarchistes ont été parmi les précurseurs de cette question, justement. Et du coup, la boucle est pas mal.
Il y a une toute dernière intervention juste là, et après on
peut rester sur la boucle et boucler, ça fait
on
une
boucle et boucler, ouais, ok, ouais. Cool, trop bien, super.
Merci.